Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 4, scène 23. À ce moment, le comte Rostopchine, portant l'uniforme de général, avec un cordon en sautoir, fit son entrée dans la salle, et la foule se recula devant lui. Des yeux perçants et un menton des plus accusés accentuaient tout particulièrement son visage.
« Sa Majesté l'Empereur va arriver, »
dit-il.
« Je pense que dans les circonstances actuelles, il n'y a pas de temps à perdre en discussion. L'Empereur a daigné nous réunir, nous et les marchands. Des millions lui seront versés de là-bas. »
ajouta-t-il en indiquant la salle où étaient les marchands.
« Quant à nous, nous devons offrir la milice et ne pas nous ménager. C'est le moins que nous puissions faire. »
Les vieux seigneurs, assis autour de la table, se consultèrent à voix basse. Des groupes se formèrent, se consultèrent de leur côté, et chacun donna ensuite son opinion.
« Je consens, »
disait l'un.
« Je partage votre avis, »
répondait un autre, pour ne pas dire absolument la même chose. Et ces voix grêles de vieillards, s'élevant une à une dans le silence après le bruit de tout à l'heure, produisaient un effet étrange et presque mélancolique. Le secrétaire reçut l'ordre d'écrire la résolution suivante. La noblesse de Moscou, à l'exemple de celle de Smolensk, offre 10 hommes sur 1000 avec leur équipement complet. Les vieux, comme s'ils étaient heureux de s'être déchargés d'un lourd fardeau, se levèrent en repoussant leur siège avec bruit et en étirant leurs jambes engourdies. Et, saisissant au passage la première connaissance venue, ils se mirent à se promener bras dessus, bras dessous, en causant de choses et d'autres.
« L'Empereur ! L'Empereur ! »
s'écria-t-on soudain, et la foule se précipita vers la sortie. Sa Majesté traversa la grande salle, entre deux haies de curieux qui s'inclinaient devant lui, d'un air respectueux et inquiet à la fois. Pierre entendit l'Empereur dépeindre le danger qui menaçait l'État et exprimer les espérances qu'il fondait sur la noblesse. On lui communiqua en réponse la résolution que venait de prendre la noblesse de Moscou.
« Messieurs, »
reprit le souverain d'une voix émue,
« je n'ai jamais douté du dévouement de la noblesse russe, mais en ce jour, il a dépassé mon attente. Je vous remercie au nom de la patrie, messieurs. Agissons de concert, le temps est précieux. »
L'empereur se tut, on se pressa autour de lui et on l'acclama avec enthousiasme.
« Oui, oui, c'est bien ça. Il n'y a de précieux que la parole du souverain. »
répétait en pleurant le comte Ilya Andreïevitch, qui n'avait rien entendu et comprenait tout à sa façon. De la salle de la noblesse, l'empereur passa dans celle des marchands et y resta une dizaine de minutes. Pierre le vit sortir de là, les yeux pleins de larmes d'attendrissement. On sut plus tard qu'en leur parlant, il avait pleuré et achevé son discours d'une voix tremblante. Deux marchands l'accompagnaient. Pierre en connaissait un gros fermier d'eau-de-vie. L'autre était le maire, dont la figure maigre et jaune se terminait par une barbe pointue. Tous deux pleuraient. Le gros fermier surtout sanglotait comme un enfant en répétant
« Notre vie, notre fortune, prenez-les, sire !»
Pierre, en attendant, ne pensait plus qu'à une chose, au désir de montrer que rien ne lui coûterait en fait de sacrifice. Et, se reprochant amèrement son discours à tendance constitutionnelle, il chercha de nouveau le moyen de le faire oublier. Apprenant que le comte Mamonov offrait tout un régiment, il déclara, séance tenante, au comte Rostopchine qu'il fournirait 1000 hommes, et en plus se chargerait de leur entretien. Le vieux comte Rostov raconta à sa femme, en pleurant, ce qui s'était passé, et, donnant enfin son consentement formel à Pétia, il alla lui-même l'inscrire sur les contrôles du régiment de hussards. Le lendemain, l'empereur quitta la ville. Les nobles de Moscou ôtèrent leurs uniformes, rentrèrent dans leurs habitudes, reprirent leur place chez eux et au club, et ordonnèrent à leur intendant respectif, non sans geindre quelque peu et en s'étonnant eux-mêmes de ce qu'ils avaient voté, de prendre les mesures nécessaires pour former les milices.